Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, nous allons présenter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. L'heure suivante, vous allez écouter le programme culturel Persona Indonesia et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie est un exemple de croissance dans la région. Le vice-président indonésien sera parti pour le Pérou pour participer à la réunion du Conseil économique d'Asie-Pacifique. Le président du Parlement a discuté du quota de Hajj avec le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite. L'Indonésie continue l'initiation de la coopération liée à LCS. L'Indonésie est le plus grand pays exportateur de crevettes aux États-Unis. Et enfin, comité 3 de DPD est fier de Biopharma comme une entreprise de classe mondiale. Voici le journal complet. La Banque mondiale a évalué que l'Indonésie était un exemple de croissance dans la région sur la base de divers faits, tels que le niveau de croissance économique stable, les grandes ressources humaines et l'adhésion au groupe économique G20. Le vice-président de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, a affirmé mercredi au bureau du vice-président de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, a affirmé mercredi au bureau du vice-président que l'Indonésie jouait également un rôle majeur dans le programme d'intégration de l'Asie du Sud-Est à travers l'ASEAN. Selon lui, le nombre de jeunes qui sont prêts également un facteur important pour la croissance indonésienne si elle est équipée par la capacité éducative et les compétences adéquates. Le nombre de jeunes de l'Indonésie est le plus grand en Asie du Sud-Est et le deuxième en Asie de l'Est après la Chine. Par conséquent, l'augmentation du développement des capacités des ressources humaines est devenue l'un des principaux programmes de la Banque mondiale indonésienne, a déclaré le vice-président Yusuf Kalla. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla est prévu pour assister à la 24e réunion des leaders de la coopération de l'Asie-Pacifique à Lima au Pérou dimanche prochain. Yusuf Kalla va partir pour le Pérou de l'aéroport Halim Perdana Kusuma jeudi matin. Yusuf Kalla est prévu pour arriver à la base aérienne militaire Alarde à Lima au Pérou vendredi à 5h44 heure locale. Comme cité par Kompas, la visite du vice-président indonésien accompagnée de Madame Mufidah Kalla, le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto, le chef du secrétariat du vice-président Muhammad Umar et de l'équipe d'experts du vice-président Sofiane Wanandi. Avant d'assister à cette réunion, il y a une série d'activités qui sera faite par le vice-président, entre autres sa rencontre avec le président de la République socialiste du Vietnam, Truong Tan Sang, et le premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Peter O'Neill. En outre, samedi le 19 novembre, Yusuf Kalla assistera au dialogue du Conseil consultatif d'affaires de l'APEC, deuxième dialogue informel avec l'Alliance du Pacifique. Le président du Parlement de l'Indonésie, Ade Komarudin, a reçu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à l'Indonésie, Osama Mohamed Al-Shuibi. Ade Komarudin au Parlement Jakarta a déclaré mercredi, l'un des sujets discutés en rapport avec le quota de Hadj indonésien est la coopération entre les deux pays pour les affaires de Hadj, qui seront suivies par la visite conjointe des chefs de faction à l'Arabie Saoudite. Adeko Makhloudine a dit: le Parlement continuerait à s'efforcer la meilleure mise en œuvre du Hadj, comme par exemple en termes de quota, la santé et les meilleurs abris des pèlerins indonésiens. En outre, au cours de la réunion, Adeko Makhloudine a affirmé: le Parlement indonésien a condamné la milice Houthi au Yémen qui a lancé des attaques de missiles balistiques à Makkah al-Mukarramah le 27 octobre 2016. Il était très dangereux pour le lieu saint musulman. Le gouvernement indonésien continuera l'ouverture de la coopération et le dialogue en rapport avec les efforts visant à maintenir la stabilité dans la région de la mer de Chine méridionale. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a déclaré mercredi, cité par Antara: la mer de Chine méridionale est pleine de ressources naturelles potentielles et géographiquement située dans l'emplacement stratégique. La situation rend la zone qui est directement adjacente à de nombreux pays ont aussi une dynamique géopolitique élevée et vulnérable à l'escalade du conflit. Le gouvernement indonésien estime l'importance d'un mécanisme et d'un forum spécial pour aligner les intérêts des différentes parties dans la mer de Chine méridionale et pour réduire les risques de conflit dans la région. À cette fin, l'Agence pour l'évaluation et l'élaboration des politiques du ministère des Affaires étrangères se tient le 25e atelier sur la gestion des conflits potentiels en mer de Chine méridionale du 16 au 17 novembre 2016. L'atelier est une initiative de l'Indonésie pour explorer les possibilités de coopération ainsi que des moyens de renforcement de la confiance entre les parties dans la mer de Chine méridionale à travers le mécanisme de dialogue. Les exportations de crevettes indonésiennes vers les États-Unis ont augmenté dans la période de janvier à août 2016. Le directeur général du renforcement de la compétitivité des produits marins et de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Nilanto Prabowo, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie déplace l'Inde dans la première position comme le plus grand exportateur de crevettes aux États-Unis. En fait, en 2013, l'Indonésie était devenue le plus grand exportateur de crevettes aux États-Unis. Mais en 2014, la position de l'Indonésie est remplacée par l'Inde. Hégémonie des exportations de crevettes indiennes aux États-Unis existe jusqu'à 2015. Sur la base des données du Bureau central des statistiques, le volume des exportations de produits de base de crevettes d'Indonésie vers les États-Unis a atteint 136 323 tonnes de janvier jusqu'à août 2016. Ce chiffre est plus élevé par rapport à celui de la même période en 2015 qui a atteint 127 690 tonnes. Le vice-président du comité 3 du Parlement régional, Fakhira Idris, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie par biopharma était maintenant l'un des trois principaux contributeurs vaccins du monde avec la Chine et l'Inde, en plus de faire de l'expansion en exportant ses produits sur le marché international. Aujourd'hui, les produits de vaccins de biopharma étaient utilisés dans plus de 123 pays, notamment les pays en développement et les pays islamiques. Selon Fakhira Idris, aujourd'hui, l'Indonésie est choisie par l'Organisation de la coopération islamique d'accueillir un programme d'atelier pour la production de vaccins des États islamiques. Précédemment, de nombreux pays islamiques ont acheté des vaccins des pays développés, mais biopharma est capable de renverser la situation de sorte que de nombreux pays islamiques croient à biopharma. Salutateur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. C'est l'exemple longtemps après le journal. Maintenant, vous pouvez écouter le commentaire et en pour le titre, la Journée internationale de la tolérance. Hier, le 16 novembre, la communauté internationale a commémoré la Journée internationale de la tolérance. Dans la résolution des Nations Unies, la date a été commémorée comme la journée pour renforcer le dialogue, la cohésion sociale et la compréhension mutuelle. La déclaration de la Journée internationale de la tolérance elle-même a été menée depuis 1995. Jusqu'à aujourd'hui, la tolérance fait face à de nombreux défis et obstacles. Il montre que la reconnaissance de la diversité des êtres humains avec leurs origines différentes n'est pas réellement intégrée comme une conscience collective. Avec l'existence de l'effet de la diversité de l'humanité, la tolérance doit être mise en œuvre comme une nécessité pour créer un monde pacifique. Au lieu de cela, l'intolérance affecte la désordre qui peut déclencher un conflit. L'histoire indique que l'intolérance commence généralement par l'absence de bonnes actions démontrées par les dirigeants. Leurs pensées et leurs attitudes pourraient créer un écart plus profond. Cela crée une dichotomie entre les riches et les pauvres, les colorés et les blancs, nous, vous et d'autres. En outre, il existe aussi des groupes qui définissent la tolérance unilatéralement. En fait, la tolérance est de deux côtés. Il y a un mot à l'autre là-dedans, mutuellement respecté et apprécié. Il est impossible si un seul côté demande l'accomplissement de la tolérance sans penser à la tolérance d'un autre côté. Cela signifie qu'il doit y avoir un équilibre égal entre le respect des droits et des obligations. À cet égard, les droits d'un individu ou d'un groupe sont limités par le respect des droits d'autres personnes ou groupes. Pour l'Indonésie, la tolérance est l'une des valeurs nobles de la nation, transmise d'une génération à l'autre. Comme par exemple, la nation indonésienne est destinée à être composée de centaines de tribus avec des diverses cultures, des langues et des religions. Jusqu'à aujourd'hui, elle peut coexister dans une telle diversité. Cependant, l'harmonie est parfois testée avec des questions émergentes telles que l'ethnicité, les religions, les tribus et l'intolérance raciale ou sectaire. Mais aussi longtemps que les Indonésiens adhèrent à l'idéologie fondamentale de l'État, Pancasila, avec la devise d'unité dans diversité. Tous les handicaps peuvent être transmis. L'élan de la Journée internationale de la tolérance est une grande fierté pour la nation indonésienne de répandre l'esprit d'unité dans la diversité à toutes les nations du monde. Espérons que la tolérance peut favoriser une amitié et une fraternité plus étroite entre les nations pour atteindre la prospérité commune. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. L'armée zapatiste de libération nationale est établie au Mexique le 17 novembre 1983. Après des débats assez rudes, une division interne au sein des partis et une vive opposition des syndicats, le Congrès américain ratifie l'ALENA. Les craintes portent sur les emplois dans les grands secteurs industriels tels que le textile ou l'automobile. C'est à coup que le Canada, les États-Unis et le Mexique instaurent une zone de libre-échange entre ces pays tout en aménageant certaines restrictions. L'armée zapatiste de libération nationale établie au Mexique. L'autre information est sur Arnold Schwarzenegger et élu le gouverneur de la Californie. Arnold Schwarzenegger, né le 30 juillet 1947 à Thaï, en Autriche, est un acteur, culturiste et homme politique américain d'origine autrichienne. Surnommé le chien autrichien, pendant ses années de culturisme, puis choisi pendant sa carrière d'acteur et plus récemment gouverneur. Il se fait connaître universellement et en devenant un des plus grands culturistes, avec notamment 5 titres de Mister Universe et 7 titres de Monsieur Olympia. Son physique exceptionnel lui a ouvert les portes d'Hollywood, dont il devient l'une des plus grandes vedettes du film d'action dans les années 1980-1990, ainsi qu'en témoigne son importante filmographie, dans laquelle figure aussi bien le genre fantastique que la comédie, en passant par la science-fiction. Durant cette période, Arnold Schwarzenegger a notamment travaillé avec des cinéastes tels que John Milius, James Cameron, John McTiernan et Ivan Reitman. Engagé politiquement avec le Parti républicain, il est élu 38e gouverneur de l'État de Californie le 17 novembre 2003. Il est réélu à ce poste le 7 novembre 2006. Jerry Brown, qui lui a succédé le 3 janvier 2011, était déjà le successeur à ce poste en 1975 de l'ex-acteur Ronald Reagan. Depuis, Arnold Schwarzenegger a repris sa carrière d'acteur. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec Tatarstan Airlines s'est écrasé le 17 novembre 2013. Tatarstan Airlines est une compagnie aérienne de Russie dont le siège se trouve à Kazan. L'autorité russe de l'aviation civile Rosaviatsia a annoncé que la compagnie privée se verrait retirer sa licence le 31 décembre 2013. Le 17 novembre 2013, un Boeing 737 qui reliait Moscou à Kazan de la compagnie s'est écrasé à 19h25 heure locale lors de son atterrissage à l'aéroport de Kazan, capitale du Tatarstan, l'une des républiques de la Fédération de Russie située dans le bassin de la Volga. L'accident a fait 50 morts. L'appareil avait été fabriqué en 1990. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Deux ans économistes discuteront l'économie de l'ASEAN ». La Fédération de l'Association des économistes de l'ASEAN tiendra la 41e conférence internationale. La conférence aura lieu à Yogyakarta du 23 jusqu'au 25 novembre. Le comité d'organisation post-Huta Barat, dans sa conférence de presse mercredi à Yogyakarta, a déclaré que le thème de la conférence est les quatre piliers de la communauté économique de l'ASEAN, l'implémentation, la perspective et le défi. Environ 200 économistes dans les pays de l'ASEAN vont venir pour discuter de la question économique dans leurs pays respectifs, y compris le secteur du tourisme. L'une des propositions est l'exemption de visa intégrée pour les pays membres de l'ASEAN et visa intégrée pour la région de l'ASEAN. Selon Post-Huta Barat, les pays européens ont déjà appliqué le visa Schengen pour une visite dans les 22 États membres de l'Union européenne et 3 pays non membres. Par conséquent, selon lui, le visa de l'ASEAN n'est pas d'une source impossible. Si le visa ASEAN peut être appliqué, les touristes en provenance de l'extérieur des pays de l'ASEAN n'ont plus besoin de gérer le visa à chaque pays de destination. Le visa commun facilitera les visiteurs, comme par exemple les touristes qui veulent visiter Singapour, la Malaisie et l'Indonésie. Ils ne doivent pas gérer le visa dans chaque pays. Les dirigeants de l'ASEAN ont convenu de créer la communauté économique de l'ASEAN en 2015 avec quatre piliers, à savoir un marché unique et une base de production, la région économique très concurrentielle, le développement économique similaire et une région pleinement intégrée à l'économie mondiale. Ces questions sont la tâche du chef de l'État et aussi d'autres parties prenantes, y compris les universités, les organisations professionnelles et le monde des affaires. Selon le président de l'Association des économistes indonésiennes, ou ICEI de Yogyakarta, Lincoln Arshad, les participants de la conférence visiteront également certaines destinations touristiques à Yogyakarta et Java Central, tels que le temple de Borobudur et Prambanan, qui ont été définis comme patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Selon Lincoln Arshad, ce forum a également recueilli 28 documents des résultats de recherche des professeurs, chercheurs, étudiants de l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Laos, le Vietnam, Singapour et la Thaïlande. Les articles ont été sélectionnés à partir d'un appel à communication mené par la communauté centrale de ICEI. Les sujets des résultats de recherche sont variés et liés aux conditions économiques de l'ASEAN. Le ministre de Coordination de l'Économie, M. Darmin Nasution, va ouvrir la conférence. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Banque mondiale a évalué que l'Indonésie était un exemple de croissance dans la région sur la base de divers faits, tels que le niveau de croissance économique stable, les grandes ressources humaines et l'adhésion au groupe économique G20. Le vice-président de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, a affirmé mercredi au bureau du vice-président que l'Indonésie jouait également un rôle majeur dans le programme d'intégration de l'Asie du Sud-Est à travers l'ASEAN. Selon lui, le nombre de jeunes qui sont également un facteur important pour la croissance indonésienne, si elle est équipée par la capacité éducative et les compétences adéquates. Le nombre de jeunes de l'Indonésie est le plus grand en Asie du Sud-Est et le deuxième en Asie de l'Est après la Chine. Par conséquent, l'augmentation du développement des capacités des ressources humaines est devenue l'un des principaux programmes de la Banque mondiale indonésienne, a déclaré le vice-président Yusuf Kalla. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla est prévu pour assister à la 24e réunion des leaders de la coopération de l'Asie-Pacifique à Lima au Pérou dimanche prochain. Yusuf Kalla va partir pour le Pérou de l'aéroport Halim Perdana Kusuma jeudi matin. Yusuf Kalla est prévu pour arriver à la base aérienne militaire Alarde à Lima au Pérou vendredi à 5h44 heure locale. Comme cité par Compass, la visite du vice-président indonésien accompagnée de Mme Mufidah Kalla, le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto, le chef du secrétariat du vice-président Muhammad Umar et de l'équipe d'experts du vice-président Sofiane Wanandi. Avant d'assister à cette réunion, il y a une série d'activités qui sera faite par le vice-président, entre autres sa rencontre avec le président de la République socialiste du Vietnam, Truong Tan Sang, et le premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Peter O'Neill. En outre, samedi le 19 novembre, Yusuf Kalla assistera au dialogue du Conseil consultatif d'affaires de l'APEC, deuxième dialogue informel avec l'Alliance du Pacifique. Le président du Parlement de l'Indonésie, Ade Komarudin, a reçu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à l'Indonésie, Osama Mohamed Al-Shuibi. Ade Komarudin au Parlement Jakarta a déclaré mercredi l'un des sujets discutés en rapport avec le quota de Hajj indonésien et la coopération entre les deux pays pour les affaires de Hajj qui seront suivis par la visite conjointe des chefs de faction à l'Arabie Saoudite. Ade Komarudin a dit le Parlement continuerait à s'efforcer la meilleure mise en œuvre du Hajj comme par exemple en termes de quota, la santé et les meilleurs abris des pèlerins indonésiens. En outre, au cours de la réunion, Ade Komarudin a affirmé le Parlement indonésien a condamné la milice Houthi au Yémen qui a lancé des attaques de missiles balistiques à Makkah al-Mukarramah le 27 octobre 2016. Il était très dangereux pour les lieux saints musulmans. Le gouvernement indonésien continuera l'ouverture de la coopération et le dialogue en rapport avec les efforts visant à maintenir la stabilité dans la région de la mer de Chine méridionale. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a déclaré mercredi, cité par Antara, la mer de Chine méridionale est pleine de ressources naturelles potentielles et géographiquement située dans l'emplacement stratégique. La situation rend la zone qui est directement adjacente à de nombreux pays ont aussi une dynamique géopolitique élevée et vulnérable à l'escalade du conflit. Le gouvernement indonésien estime l'importance d'un mécanisme et d'un forum spécial pour aligner les intérêts des différentes parties dans la mer de Chine méridionale et pour réduire les risques de conflit dans la région. À cette fin, l'Agence pour l'évaluation et l'élaboration des politiques du ministère des Affaires étrangères se tient le 25e atelier sur la gestion des conflits potentiels en mer de Chine méridionale du 16 au 17 novembre 2016. L'atelier est une initiative de l'Indonésie pour explorer les possibilités de coopération ainsi que d'un moyen de renforcement de la confiance entre les parties dans la mer de Chine méridionale à travers le mécanisme de dialogue. Les exportations de crevettes indonésiennes vers les États-Unis ont augmenté dans la période de janvier à août 2016. Le directeur général du renforcement de la compétitivité des produits marins et de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Nilanto Prabowo, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie déplace l'Inde dans la première position comme le plus grand exportateur de crevettes aux États-Unis. En fait, en 2013, l'Indonésie était devenue le plus grand exportateur de crevettes aux États-Unis. Mais en 2014, la position de l'Indonésie est remplacée par l'Inde. Hégémonie des exportations de crevettes indiennes aux États-Unis existe jusqu'à 2015. Sur la base des données du Bureau central des statistiques, le volume des exportations de produits de base de crevettes d'Indonésie vers les États-Unis a atteint 136 323 tonnes de janvier jusqu'à août 2016. Ce chiffre est plus élevé par rapport à celui de la même période en 2015 qui atteint 127 690 tonnes. Le vice-président du comité 3 du Parlement régional, Fakhira Idris, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie par Biopharma était maintenant l'un des trois principaux contributeurs vaccins du monde avec la Chine et l'Inde, en plus de faire de l'expansion en exportant ses produits sur le marché international. Aujourd'hui, les produits de vaccins de Biopharma étaient utilisés dans plus de 123 pays, notamment les pays en développement et les pays islamiques. Selon Fakhira Idris, aujourd'hui, l'Indonésie est choisie par l'Organisation de la coopération islamique d'accueillir un programme d'atelier pour la production de vaccins des États islamiques. Précédemment, de nombreux pays islamiques ont acheté des vaccins des pays développés, mais Biopharma est capable de renverser la situation de sorte que de nombreux pays islamiques croient à Biopharma. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La cascade de Ae Lumut. Tobasa ou bien Toba Samosir est l'un des régions de la province de Sumatra du Nord qui entoure le lac de Toba, le plus grand lac en Indonésie. Outre le lac de Toba, la destination touristique principale de cette région est également située dans la vallée Asahan, Ngarai Siguragura ou mieux connue comme la vallée d'Asahan, offre un beau panorama avec une variété de beauté naturelle. On peut voir les forêts tropicales, les rizières, les montagnes et les autres falaises. Sous les falaises de roses coulent aussi des dizaines de cascades. Quelques cascades dans la vallée d'Asahan ont été gérées comme une attraction touristique, comme par exemple la cascade d'Ae Lumut. La cascade d'Aïe Lomot est située dans la zone de Ngarai Siguragura, précisément à Parhitian, le district de Meranti du Nord, la région de Tobasa. Cette cascade est située au bord d'Irali Porsea à Tobasa Mosir, avec la région d'Asahan. Il n'est pas si difficile pour visiter cette cascade parce qu'on ne doit pas faire de trekking pour y aller. La cascade en général est située dans la forêt et les visiteurs doivent d'abord trekking pour atteindre la cascade. En arrivant à la cascade d'Aïe Lomot, vous verrez la cascade qui est très beau. L'eau est claire, propre et fraîche à partir de vallées roches plus de 70 mètres de haut. Au-dessous, il y a une petite piscine naturelle qui n'est pas profonde. Par conséquent, donc, elle peut être utilisée pour nager. Mais on peut jouer car le débit de la cascade est assez douce et se sent comme la pluie. Autour de la piscine, il y a beaucoup de gros rochers éparpillés, ajoutant à la beauté de cette cascade. Environ 15 mètres de la cascade, il y a aussi la rivière Asahan. Le débit de cette cascade coule directement dans la rivière Asahan. La zone touristique d'Aïe Lomot est équipée de diverses installations telles que des emplacements de stationnement, des restaurants et la salle de bain. Pour entrer dans la zone de cascade, vous ne devez pas payer l'entrée. Vous devez payer pour le stationnement de 5000 rupiah par moto. Après avoir voyagé à l'Aïe Lomot, vous pouvez également visiter des autres cascades dans la vallée Asahan, comme par exemple la cascade de Sampuran Harimau. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur, intitulé Le service de mail indonésien utilisera le moteur électrique de l'Institut Technologie de Bandung. Le service de mail indonésien est une entreprise publique indonésienne qui s'engage à l'envoyage de mail à tout coin d'Indonésie. Maintenant, cette entreprise ne sert seulement qu'aux mails et courriers, mais aussi aux services financiers, fournis par environ 4000 bureaux centraux et 28 000 agences de poste qui se diffusent à l'archipel. Dans son service, il faut un moyen de transport opérationnel. De cette raison, le service de mail indonésien est intéressé à utiliser le moteur électrique de l'Institut Technologie de Bandung, ou ITB. Ce moteur électrique ayant trois roues est engagé à remplacer un millier de moyens de transport traditionnels du service de mail indonésien et en même temps de fournir la campagne des technologies vertes en Indonésie. Le secrétaire du service de mail indonésien, M. Amrizal, a expliqué que SAPAT avait considéré à chercher un nouveau moyen de délivrance. Selon lui, le moyen comme la voiture n'est pas très pratique quand il doit livrer des biens aux petites roues, quand à la moto, elle n'est pas assez bonne pour emporter de gros biens. C'est la raison que l'utilisation du moteur électrique en trois roues est une bonne solution. Dans l'exposition d'innovation à ITB récemment, le tric était l'un des produits exposés. Il a une cabine demi-fermée pour le chauffeur, sans porte, avec la couleur orange, et à l'arrière du tric, il y a un compartiment pour les biens, complet avec le logo du service de mer indonésien. Selon Amrizal, cette année, le service de mer indonésien va vendre 10 unités de tric manufacturées à ITB. Le test drive s'est déjà fait à Bandung parce que c'est plus facile à surveiller. À ce jour-ci, le service de mer indonésien utilise plus de 10 000 motos et plus de 7 000 voitures. À l'avenir, les moteurs électriques ne seront pas utilisés comme le moyen de livraison, mais aussi pour la transaction mobile, donc chaque tric est équipé par un pêcheur. Le chef de désigné pour la production automotive de moteurs électriques ITB, Yannis Martinus Pasaribo, a déclaré que le service de mer indonésien désire à produire un véhicule qui correspond à la vitesse de service logistique municipal en profitant de l'électricité. Selon Yannis, le moyen de transport comme ce moteur électrique possède des avantages comme le prix étant plus économique, la capacité d'emporter beaucoup de biens et la capacité de se dérouler au petit trot. Selon Yannis, autrement par tout cela, le tric est confortable pour l'opérateur. Le concept de la distribution des biens avec le tric électrique de ITB est d'utiliser le code à barre pour surveiller le database des biens complète avec la technologie de GPS pour l'opérateur et le moteur. Le système va faciliter les consommateurs pour surveiller la délivrance en ligne et real-time et ce véhicule qui est capable d'emporter des biens jusqu'à la volume de 3 mètres cubes et aussi capable de se dérouler à la roue qui mesure 2 jusqu'à 3 mètres. Chers amis, c'était notre rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter une chanteuse Memes. Pour ouvrir notre rencontre, voici Memes avec sa chanson intitulée « Terlanjur Sayang ». Bonne écoute.
Akan cinta kita apakah diriku yang bersalah hingga bisa di depan mata, tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya sampai ke sepanjang waktu. Menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunda.
C'était la chanson de Memes intitulée Terlanjur Sayang. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@veu.ce.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voindonesia. Mediana Maimunah est née le 6 mai 1965, plus connue sous le nom de Memes. Elle a commencé sa carrière en tant que modèle photo, actrice et chanteuse de l'Indonésie. Les chansons qui sont célèbres dans les années 1990 étaient « Terlanjur Sayang » et « Miliki Diriku ». En 1979, Memes a rejoint avec Suara Mahardika 9. Elle était succès dans l'événement à la première performance de Cipta Karya Guru Soekarno Putra en 1980. Memes a eu des offres pour jouer dans le film. En outre, en 1994, elle a sorti son premier album intitulé « Terlanjur Sayang ». Cette chanson a assez bien réussi sur le marché et est devenue un hit dans les charts des chansons pop indonésiennes dans diverses stations de radio privées en Indonésie au cours de l'an 1995. Bon, chers auditeurs, écoutons donc la chanson suivante de Memes intitulée « Janji Hati ». Bonne écoute.
Janji hati untukmu.
Chers amis de l'antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans la rubrique Le magazine musical avec une chanteuse Memes. Après son premier album à succès, elle est diplômée de l'université Trisakti et a publié un deuxième album intitulé Cinta et Kasih en 1996 avec le hit intitulé Miliki Diriku. Le prochain album, Ilusi, a été lancé en décembre 1997 avec le hit intitulé Pesawatku. Memes a également été nominée MTV Most Wanted version féminine et la meilleure chanteuse de Anugerah Musik Indonesia. Le prochain album de Memes est Janji Hati en 1999 et Jangan Pernah Tinggalkan en 2001. Après plusieurs années de vide et elle n'en registre plus l'album, en 2006, Memes a sorti un nouvel album intitulé Perjalanan Cinta. À cet album, Memes a chanté à nouveau ses meilleures chansons, entre autres Terlanjur Sayang, Miliki Diriku, Jangan Pernah Tinggalkan et Selalu Di Sampingmu. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Memes intitulées Arti Kehidupan et Jangan Pernah Tinggalkan. Bonne écoute et au revoir.
Dalam lautan ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan. Seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh liku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Kau menjelma seperti hayalan, dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba di sisimu selamanya. Yang terakhir, di cintamu ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku.
toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était quelques chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.